Bonjour et bienvenue sur Mediapart pour cette nouvelle émission de l'écho à contre-courant où nous allons aujourd'hui parler de la dette publique. Il y a beaucoup de raisons, de bonnes raisons de faire cette émission sur la dette publique. D'abord parce que effectivement, suite à la crise du coronavirus dans laquelle nous sommes encore, la dette publique française mais aussi de tous les grands États occidentaux et même des pays émergents est en train d'exploser en termes de volume. La deuxième raison, c'est qu'elle a été au cœur d'une polémique au sein des économistes et notamment des économistes hétérodoxes pendant toute la période qui a précédé la fin de l'année 2020, et nous allons y revenir tout à l'heure. Et puis la troisième raison, c'est la publication d'un livre réalisé par le collectif des économistes atterrés qui s'appelle donc « La dette publique précis d'économie citoyenne » qui est publié le 14 janvier aux éditions du Seuil et qui effectivement essaye de donner un peu un aperçu de tous les enjeux de cette question de la dette publique d'un point de vue hétérodoxe. Alors, pour en parler, nous avons deux des auteurs de ce livre. D'abord, Alban Pellegris, vous êtes économiste à l'université de Rennes 2. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et Arthur Jatteau, vous êtes économiste à l'université de Lille.
Bonjour.
Très bien. Donc, nous allons maintenant essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet. La première question, la première remarque auquel on est toujours confronté lorsqu'il s'agit de dette publique, c'est évidemment l'idée que c'est quelque chose qui doit être remboursé, qui est un fardeau pour les générations actuelles et aussi pour les générations futures. C'est la fameuse dette qui sera payée par nos enfants et que l'actuel gouvernement, c'est une remarque que l'actuel gouvernement ne cesse de faire, qu'il a utilisée notamment au moment de la réforme des retraites, qu'il utilise encore en partie en ce moment, on y reviendra. Alors, j'aimerais voir avec vous si justement cette dette publique est-elle intrinsèquement un fardeau pour les générations futures, comme on l'entend régulièrement, peut-être.
Cette idée de la dette publique comme étant un fardeau des générations futures, c'est une idée, comme vous l'avez rappelé, qui est couramment utilisée pour justifier des baisses de dépenses publiques, des cures d'austérité, pour la raison selon laquelle on laisserait une dette publique à nos enfants. Mais c'est une idée qui est extrêmement fallacieuse, puisqu'on ne laisse jamais uniquement un passif, on ne laisse jamais uniquement des dettes, on laisse aussi ce à quoi elles ont servi, ces dettes publiques-là. Donc à nos enfants, on va leur laisser de la dette publique, mais on va aussi leur laisser les hôpitaux, les écoles, les routes qu'on a pu bâtir avec la dette publique. Donc en fait, on laisse toujours un passif et un actif. Et en réalité, quand on compare les deux, quand on compare les actifs publics et les passifs des administrations publiques, on laisse davantage d'actifs. Donc en fait, à nos enfants, on ne laisse pas un fardeau, on laisse d'une certaine manière des joyaux qui sont les hôpitaux, les écoles, un système de sécurité sociale, etc. Et puis, on pourrait même ajouter que les titres de dette publique, c'est-à-dire à qui l'État français doit de l'argent, c'est en partie à des gens qui sont sur le territoire national aujourd'hui et qui vont laisser ces titres de dette aux générations futures et à leurs enfants. Donc évidemment, les générations futures, elles posséderont aussi des titres de dette de la dette publique française. Donc les générations futures, elles n'ont pas un fardeau, elles sont gagnantes à la dette publique pour volumineuse qu'elle soit aujourd'hui.
Alors c'est aussi l'autre argument qui est souvent présenté, qui est notamment utilisé par notre ministre de l'économie Bruno Le Maire, c'est de dire un ménage ne peut pas s'endetter indéfiniment et donc d'une certaine façon un État doit comme un ménage se comporter en bon père de famille et rembourser ses dettes à échéance. Alors est-ce que finalement l'État doit se comporter comme un ménage soigneux de ses deniers?
Cette comparaison, elle est souvent utilisée, pour, comme vous l'avez dit, bon père de famille, mais en fait, elle est fallacieuse, parce que le ménage a une horizon de vie limitée, alors que l'État a une durée de vie illimitée. Donc l'État, le privilège que ça lui donne, c'est que finalement, la seule chose qu'on rembourse vraiment, et en ce sens-là, ça rejoint que c'est bien la génération actuelle qui le paye, c'est les charges d'intérêt, en fait.
C'est ça.
C'est une partie des recettes fiscales chaque année qui sont utilisées pour payer les créanciers, enfin les intérêts sur la dette. Et une fois que le principal, un emprunt de 10 milliards est dû, par exemple à horizon 6-7 ans, eh bien ces 10 milliards peuvent, du fait de l'horizon de vie indéfini, être réemprunté pour rembourser le principal, et donc on fait ce qu'on appelle rouler la dette. Mmh. Et ça, du coup, le vrai coût de la dette, c'est jamais que les intérêts qu'on paye chaque année avec le budget, avec les recettes.
C'est évidemment très différent d'un endettement privé payé par une entreprise ou par un ménage qui doit rembourser le capital au fil du temps. Alors pour autant, donc la dette, on l'a vu, n'est pas un fardeau, ça n'est pas quelque chose qu'on doit rembourser comme une dette privée, mais néanmoins, et vous le soulignez aussi dans le livre, hein, c'est ce peut être un instrument de domination et c'est aussi un instrument d'inégalité entre les classes sociales. Alors comment ça fonctionne? Pourquoi la dette peut devenir un instrument de domination à la fois de classes sociales et parfois évidemment d'enjeux géopolitiques entre des créanciers, voire des États créanciers et des États débiteurs?
En fait, l'État, pour financer ses dépenses publiques, il a grosso modo deux solutions. Soit il fait des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire des impôts, des cotisations sociales, soit il fait de l'emprunt, il emprunte l'argent. Donc c'est les deux possibilités. Il se trouve que dans un cas avec les prélèvements obligatoires, on fait payer tout le monde, les ménages, les entreprises, et dans l'autre cas, les dettes, on verse des intérêts à certaines personnes et pas à d'autres. À qui on verse des intérêts de la dette? Par définition, aux personnes les plus riches. Pour pouvoir prêter de l'argent à l'État, il faut avoir de l'épargne, il faut avoir de l'argent en trop, ce que n'ont pas la plupart des gens. Donc, on voit bien qu'on est face à une alternative. Soit je prélève de l'argent sur tout le monde, et pourquoi pas en particulier sur les plus riches, soit j'emprunte de l'argent auprès des plus riches. Et ce qu'on remarque ces dernières années, c'est qu'on a fait un choix, en fait, qui est un choix politique, de plutôt emprunter aux plus riches, et donc de faire grossir la dette, plutôt que de leur prendre notamment par la fiscalité. Hein, et ça, on peut penser à la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, au prélèvement forfaitaire unique, à la baisse de l'impôt sur les sociétés, les exonérations de cotisations sociales, etc. Et donc, on a fait le choix politique de privilégier une certaine classe sociale, la classe sociale la plus riche, pour financer la dette publique.
Donc finalement, les plus riches, justement, sont les grands gagnants de cette façon de faire, puisque à la fois, on baisse l'impôt qui les frappe et on leur demande de l'argent, et donc finalement on se lie à eux via les titres de dette.
Exactement. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'avant, ce qu'on leur prenait sans contrepartie, aujourd'hui c'est nous qui leur versons quelque chose. Si on simplifie, c'est exactement ça que ça veut dire, de privilégier un financement par la dette publique qui enrichit certaines catégories de la population les plus riches, à la place d'un financement de la dépense publique majoritairement par les prélèvements obligatoires.
Et là, ça rejoint ce qu'on disait auparavant, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on finance par cette dette publique, ce n'est plus les investissements, ce n'est plus les services publics, ce ne sont plus les politiques de redistribution, mais c'est finalement les politiques de baisse d'impôts et donc finalement des politiques inégalitaires.
Alors, on finance des... Il y a des baisses d'impôts, et à cause de ces baisses d'impôts, on est toujours obligé, enfin, on est obligé, du coup, de s'endetter davantage auprès, en particulier, des ménages les plus riches. Mais ce qu'il faut préciser par rapport à ce que vous venez de dire, si on se centre sur l'utilisation de la dette publique, on est en déficit public depuis très longtemps en France, mais si on enlève de ce déficit public les investissements publics, alors là, on est en excédent. Donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que ça veut dire que si on s'endette aujourd'hui en France, c'est pour des investissements. C'est pas pour de la trésorerie, payer des salaires ou ce genre de choses. C'est pour construire des hôpitaux, des écoles, etc.
Il y a une partie de la dette qui est quand même liée au manque de fiscalité progressive.
Mais, donc à ce choix qui vient d'être défini.
Oui. Mais je voudrais rajouter un argument par rapport à la notion de dépendance, parce que on voit bien que cette relation entre créanciers et débiteurs, entre un État et ses créanciers, en fait, elle est très variable dans l'espace, dans le temps. Et tout ça, en fait, ça montre que l'enjeu, c'est pas tellement le niveau de dette, mais c'est les conditions dans lesquelles on s'endette. Je vais donner juste deux exemples. On voit aujourd'hui, à l'extrême du spectre, on a le Japon. Le Japon a 240% de dette publique. Il n'a aucune menace vis-à-vis des marchés financiers. À côté de ça, on a des pays en développement qui s'endettent, par exemple, en dollars, qui ont connu des crises de la dette. On a la Grèce qui s'endettait en euros, qui a connu une crise de la dette. Donc on voit bien que ce n'est pas le niveau de dette en lui-même qui pose problème, c'est toujours les conditions. En fait, ces conditions ne sont jamais que des conditions institutionnelles dans lesquelles, en gros, les créanciers vont avoir plus ou moins de pouvoir sur l'État. Voilà. Alors la pire des situations, évidemment, c'est quand on s'endette dans une monnaie que l'État ne maîtrise pas du tout. Donc c'est ce qui se passe pour les pays en développement qui s'endettent en dollars, parce qu'on voit bien que pour se procurer cette devise, pour pouvoir rembourser la dette dollar, qui est une monnaie qu'ils ne créent pas, ils sont obligés d'avoir des politiques d'exportation où ils captent de la devise comme ça pour pouvoir honorer leurs échéances.
Typiquement l'Argentine, qui depuis des années est enfermée en fait dans ce piège.
Et le plus curieux, par contre, pour revenir au cas grec, c'est que on avait un pays qui s'endettait normalement dans sa monnaie, donc l'euro, et qui a été complètement mis à la merci des marchés financiers, qui ont au bout d'un moment refusé de continuer à lui prêter. Et en fait, cette situation a été possible parce que avec une complicité de la BCE.
Il y a une ambiguïté sur le fait justement que l'euro était la monnaie de la Grèce ou n'était pas la monnaie de la Grèce.
Est-ce que les pays ne sont pas étrangers à leur monnaie dans la zone euro puisque cette monnaie est gérée par la Banque centrale ?
Alors, vous avez évoqué le niveau de dette. On va y revenir puisque la France, comme beaucoup d'autres pays, à la suite de la crise du coronavirus, a augmenté sa dette pour pouvoir pratiquer les politiques contrat cyclique, les politiques de lutte contre la crise. Aujourd'hui, la dette va atteindre pas très loin des 120% du PIB. Et le gouverneur de la Banque de France, donc, qui est membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a récemment indiqué que cette limite de 120% était la limite absolue, qu'il ne fallait absolument pas la dépasser et que c'était une question en fait, de vie ou de mort, on va dire, que si on dépassait trop cette limite de 120% de dette en fait, sur le PIB, eh bien, on risquait la faillite. Est-ce qu'on pourrait, avant de discuter de cette question, peut-être revenir sur ce fameux ratio de dette publique sur le PIB, qui est un peu utilisé, y compris d'ailleurs au niveau européen, comme un critère. Est-ce que ce ratio, finalement, a un sens et si oui, quel sens peut-il avoir ?
Disons que rapporter des grandeurs économiques au PIB, à ce qu'on produit chaque année dans un pays, ça peut avoir un sens. Pour la dette publique, ça interroge tout de même, puisque comme l'a suggéré mon camarade, on peut avoir des pays avec un ratio dette publique sur PIB de plus de 200%, comme le Japon, et ça pose pas tellement de problèmes, d'autres qui sont beaucoup moins, et on voit bien que la situation économique est plus mauvaise. Hein, en réalité, rapporter la dette publique au PIB, c'est sans doute pas le meilleur indicateur pour saisir si un pays, un État a un problème avec sa dette publique. En réalité, c'est pas le niveau, le ratio dette publique sur PIB. Pendant que vous posiez votre question, je me suis souvenu qu'avant, les critères de Maastricht, c'était 60% du PIB. Ensuite, il y a des économistes américains qui nous ont dit « Ah, c'est 90% maximum la limite ». Maintenant, on a un gouverneur de la Banque de France qui nous dit « C'est 120% la limite. Est-ce que dans 10 ans, on dira c'est 150% ?» En fait, la limite, c'est le problème, c'est quand l'État n'arrive plus à faire face à ses obligations. Aujourd'hui, la France n'a aucun problème ni à emprunter sur les marchés financiers ni à rembourser la dette. Hein. Je pense qu'un meilleur, c'est ce qu'on essaie de dire dans le livre, un meilleur indicateur de la dette publique, du poids de la dette publique, c'est la charge d'intérêt, c'est le vrai coût de la dette. Si on regarde les intérêts que paye la France par rapport au PIB ou par rapport aux recettes publiques, ces intérêts, ils sont en baisse depuis 10 ans. Autrement dit, on est de plus en plus endetté, c'est vrai, mais ça nous coûte de moins en moins cher. Donc, le problème est bien moindre qu'une augmentation du ratio dette publique sur PIB. Aujourd'hui, ça ne nous coûte pas très cher d'emprunter. Donc, ce n'est pas une situation très problématique pour l'État français.
Alors, néanmoins, ce n'est pas l'avis de notre gouvernement et du ministre de l'économie, mais aussi du Premier ministre Jean Castex, qui a mis en place une commission sur l'avenir de la dette publique, une commission de 10 membres qui a été mise en place juste avant les vacances de Noël et qui a pour fonction de réfléchir à la façon dont on doit justement réduire cette dette publique à l'avenir. Alors, François Villeroy de Galhau avait proposé la stabilisation des dépenses publiques justement en mettant en garde contre des ratios trop élevés. Peut-être un mot sur cette composition, sur la composition de cette commission et puis sur la façon dont finalement, ce dont on peut attendre finalement de cette commission finalement. Pourquoi, à votre avis, le gouvernement a créé cette commission alors que, Arthur vient de rappeler, il n'y a pas d'urgence absolue dans l'immédiat et donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces travaux ?
Ben, on peut y voir un certain agenda politique, c'est-à-dire à chaque fois, vu que la dette a cette fonction, c'était déjà le cas en 2005 avec le rapport Pébro de dramatisation, pour avancer, mieux avancer un certain agenda politique, puisque là, on voit bien que ce qui a été écarté d'emblée, il me semble que c'est Wilfried Gallo qui l'a dit, ils ont d'emblée dit que les baisses de fiscalité qui avaient été engagées jusqu'ici par Emmanuel Macron n'étaient pas négociables. Donc on voit bien que si, avec ça, il faut quand même commencer à rembourser la dette, donc finalement, ça va se passer du côté de la dépense. Donc, et là, là-dessus, on, ça, bon, en d'autres termes, ça veut dire de l'austérité. Et là-dessus, on voit que la composition de la commission, elle n'est pas neutre, puisqu'on a énormément de personnalités. Alors, Macron a vachement insisté sur le côté paritaire. Alors, c'est très bien, mais la parité, elle se fait peut-être au niveau voilà, du genre, mais elle ne se fait pas du tout au niveau du background théorique. Quoi. C'est-à-dire, on a énormément on a pas d'hétérodoxe, pour faire simple. On a beaucoup d'économistes qui ont notamment... Enfin, vous êtes sûrement mieux informé que moi, puisque vous avez fait un papier là-dessus, mais sur la... qui ont servi à la fois pour l'austérité en Grèce, qui ont été dans les cabinets ministériels à ces moments-là, etc. Et donc qui en fait, ont même servi au niveau de la CADES, donc du cantonnement. Donc on se dirige quand même vers l'idée de cantonner la dette, c'est-à-dire, pour repréciser aux auditeurs, l'idée qu'on va affecter de manière durable un impôt, comme c'était le cas avec la CRDS, hein, la Caisse de remboursement de la dette sociale, un prélèvement style CSG, donc sur tous les revenus, notamment les salaires, pour rembourser cette dette, ces 20%, ces 20 points de PIB de dette que...
Ça veut dire qu'en fait, on réserve une partie des revenus de l'État au remboursement de cette dette, alors que, comme on vient de le dire, aujourd'hui, la dette ne coûte rien. Enfin, la dette nouvelle qu'on prend ne coûte rien, voire même peu rapportée, puisque une certaine partie de la dette est contractée à taux négatif.
On l'a fait rouler, moins 0,3 à 10 ans. Ouais.
Donc c'est en fait une façon d'utiliser la dette pour un autre agenda que la dette elle-même. C'est pour un agenda, là, pour le coup de destruction du modèle social, d'une certaine façon. Absolument. Donc ça, c'est ce qu'on peut effectivement attendre. C'est la solution, finalement, qui a été plus ou moins choisie déjà par le gouvernement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des économistes, qui ne sont pas d'ailleurs forcément des hétérodoxes, comme Olivier Blanchard ou la chef économiste de l'OCDE, Laurence Boone, qui critiquent finalement ce choix-là, en disant justement qu'il n'y a pas de risque lié à la dette publique aujourd'hui. Est-ce que finalement, la meilleure solution, c'est de ne rien faire, justement, c'est-à-dire de continuer à faire rouler cette dette, à profiter des taux négatifs pour s'endetter à très long terme, et finalement, continuer comme on le fait aujourd'hui, sans se soucier de cette dette publique.
Je ne pense pas que la meilleure solution, ce soit de ne rien faire. Ce qu'on essaie de dire dans l'ouvrage, c'est que, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Les taux auxquels on emprunte sont proches de zéro, parfois même négatifs. On nous paye pour emprunter. Du coup, ce serait un peu dommage de ne pas en profiter. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui va vraisemblablement se passer dans les prochaines années. Mais ça ne veut pas dire que le système actuel, il est idéal. En particulier, on s'est un peu lié les mains depuis les années 80 du point de vue du financement de nos dépenses publiques en s'obligeant à passer par les marchés financiers, ce qui fait qu'on est un peu soumis aux agences de notation, à la façon dont les grandes banques, dont les grandes assurances vont nous voir pour acheter nos titres de dette publique, alors que pendant longtemps, dans l'après Seconde Guerre mondiale, on avait une autre façon de financer nos dépenses publiques. En particulier, il y a un système qui existait à l'époque et qui obligeait les grandes banques françaises à détenir un taux d'intérêt que l'État définissait un certain nombre de titres de dette publique. On pourrait totalement revenir là-dessus. Il n'y a pas d'obstacle technique. Ce serait juste un geste politique que de dire qu'on pourrait obliger les banques présentes sur le territoire à détenir un minimum de dette publique française. Il y a aussi un autre moyen qui existe, c'est de demander à la banque centrale d'acheter directement des titres que la banque émet, non pas sur le marché secondaire comme ça se fait aujourd'hui, puisque la banque centrale européenne possède à peu près 20% de titres de la dette publique française, mais demander à l'émission, quand on émet nos titres de dette, à la banque centrale d'en acheter directement. Autrefois, on disait qu'il ne fallait absolument pas le faire parce que c'était très inflationniste. Aujourd'hui, l'inflation, c'est plutôt quelque chose qu'on recherche. Donc, ce sont deux pistes qui permettraient de réformer le système côté financement et puis du point de vue des ressources, du point de vue fiscal, il faut aussi une politique fiscale beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus redistributive. J'ai parlé tout à l'heure de la suppression de l'ISF et du prélèvement forfaitaire unique. C'est un cadeau de 5 milliards d'euros par an aux plus riches dont on peine à mesurer les effets, à part pour les plus riches, les effets pour eux sont très clairs. Rétablir une plus grande progressivité de l'impôt sur le revenu, ce genre de choses. Donc, politique fiscale différente, politique de financement de la dette publique différente, ce sont autant de solutions qu'on peut envisager pour voir le système.
Est-ce qu'on peut revenir sur un point que vous avez évoqué, celui du financement direct de la dette publique par la Banque centrale? C'est vrai que, comme vous l'avez dit, ça a été longtemps rejeté parce que c'était associé à des images d'hyperinflation, les brouettes de billets dans l'Allemagne des années 20, etc. Est-ce que c'est un argument aujourd'hui qui est quand même encore valable? Est-ce qu'il y a un risque inflationniste à réaliser ce type de méthode?
Je pense pas que le risque d'inflation, en fait, ça dépend. Je pense que les arguments que vous venez de donner, enfin, c'est pas les vôtres, mais c'est ceux qui sont souvent rappelés, c'est lié à une vision de l'inflation qui en fait a été assez invalidée, qui est, pour faire un peu de théorie économique rapidement, c'est la théorie quantitative de la monnaie qui dit que voilà, quand il y a plus de monnaie, les prix augmentent. Cela n'est pas vérifié. En fait, pour les keynésiens, et c'est un peu le parti pris du livre, l'inflation, elle se produit quand on approche le plein emploi, quand il y a trop de dépenses et que, en gros, les capacités productives ne peuvent pas suivre. Bon, aujourd'hui, il faut nous expliquer, avec le nombre de chômeurs, il me semble qu'il y a énormément de ressources qui sont inemployées. Donc aujourd'hui, si vous voulez, même l'intervention de la BCE, ces espèces de mesures non conventionnelles, qui auraient été inimaginables il y a encore une dizaine d'années, sont entreprises au nom de faire redémarrer l'inflation. Et elles n'y arrivent pas. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, en gros, la demande est à tonne. Il n'y a pas assez de demande. Il y a des capacités de production inemployées. Donc aujourd'hui, c'est le principal risque, c'est le risque de déflation. C'est pas celui celui d'inflation.
D'autant qu'il y a un élément qu'on oublie souvent, c'est l'usage que l'on fait de cette monnaie, de cette dette publique qui est immédiatement vendue à la BCE. Effectivement, si ça sert uniquement à une augmentation de la demande extérieure, ça peut provoquer une inflation. Sinon, c'est un peu plus.
Et par ailleurs, si je peux juste ajouter un point sur la question de l'inflation, c'est vrai qu'il faut rappeler que l'inflation, la hausse généralisée des prix, ça diminue la valeur réelle de la dette. Donc, quand on a une dette publique de plus de 2000 milliards d'euros, faire un peu d'inflation.
D'ailleurs, l'Allemagne des années 20 s'est débarrassée de sa dette grâce à son.
Exactement, ça s'est fait à d'autres moments dans l'histoire. C'est un peu d'inflation, on crache pas dessus. Quand on a une dette de 2000 milliards, c'est pas forcément, du point de vue de la dette publique, une mauvaise chose.
Très bien. Alors, on va terminer cette émission sur le grand sujet qui a occupé les économistes depuis deux mois, qui est celui de l'annulation de la dette publique détenue par la BCE, puisque, comme vous l'avez rappelé, aujourd'hui, la BCE, et c'est une des raisons pour lesquelles les taux sont si bas, rachète régulièrement la dette publique émise par les pays de la BCE, de la zone euro, sur les marchés, sur le marché secondaire, c'est-à-dire une fois cette dette émise, elle le rachète auprès des investisseurs. Et cette dette qu'elle détient, eh bien, elle la fait rouler comme un État le fait rouler. C'est-à-dire que quand elle, la dette arrive à échéance, elle reprend, elle rachète le même montant sur le marché. Et certains économistes donc proposent que cette dette qui est détenue par la BCE soit annulée pour que justement on soit débarrassé, les États de la zone euro soient débarrassés de cette dette-là. Alors ça a provoqué un grand débat au sein de la communauté des économistes. Est-ce que vous pouvez d'abord peut-être nous résumer ce débat, ces enjeux, et puis vous nous donner votre point de vue sur le sujet?
En fait, pour essayer de résumer la situation, ça rejoint un peu votre remarque de tout à l'heure sur est-ce qu'il faut rien changer. On voit aujourd'hui qu'on s'endette à taux négatif à 10 ans et on voit que pourtant les États ont la pédale de frein sur la dépense publique. Et donc, des économistes s'interrogent à comment on fait pour sortir de cette situation-là. Donc, on voit bien que là, aujourd'hui, les États se heurtent finalement aux règles budgétaires qui, certes, ont été relâchées, mais elles n'ont pas été abolies non plus. Et donc, le parti pris des annulationnistes, c'est de dire nous, on va faire avec les traités tels qu'ils sont, on va juste s'appuyer stratégiquement sur la BCE actuellement, lui demander d'annuler les dettes qu'elle a rachetées. Donc, pour la France, c'est 20% de la dette publique. Et en échange, à condition que les États dépensent ce même montant et l'investissent, par exemple, dans la transition écologique. Donc ça serait une manière, si vous voulez, la stratégie derrière de dire on contourne un peu les règles budgétaires pour inciter encore plus, parce que les États ne le font pas assez suffisamment aujourd'hui, à la dépense, à la relance et surtout à l'investissement dans la transition écologique.
D'accord. Et c'est une option que vous jugez à la fois peut-être crédible et pertinente ?
C'est une option, la question de l'annulation de la dette qui ne doit pas être écartée a priori. Dans certaines situations, il nous semble que ça peut avoir sa pertinence, notamment pour des pays en développement qui ne sont pas endettés dans leur propre monnaie, où la dette, on peut s'interroger sur sa légitimité, même sur sa légalité. Donc là, l'annulation peut avoir.
D'ailleurs, historiquement, il faut rappeler que c'est quelque chose qui est fait régulièrement depuis plusieurs siècles.
Bien sûr, c'est fait. Et d'ailleurs, souvent, les conséquences sont plutôt positives pour les États qui l'ont fait. C'est ce que l'histoire montre. C'est ce qu'on peut retenir. Pour autant, dans le cas de la France, ce qu'on essaie de dire, c'est que bon, il y a pas d'urgence là. On emprunte à des taux très faibles. On arrive bien à rembourser. Est-ce que ça vaut le coup, j'allais dire politique, de se battre pour l'annulation là maintenant tout de suite, ou est-ce qu'il y a d'autres priorités? C'est quelque chose.
En même temps, on a vu que le ratio, le chiffre, était utilisé comme un argument pour justifier l'austérité future.
Voilà, c'est un argument en faveur de l'annulation. C'est-à-dire, si on peut passer de 120% à 100 juste d'un coup de baguette magique, mais le problème, c'est qu'en disant ça, on peut laisser entendre on revient à 100% du PIB en dette publique, donc c'est énorme.
Donc on justifierait, justement.
On rejustifierait d'une certaine manière l'austérité, et nous, on veut un peu remettre en cause tout ça.
Pour moi, c'est plus, pour compléter ce qui a été dit, c'est un peu une lecture stratégique sur qu'est-ce qu'on peut espérer. Je pense que, au-delà des divergences et des échanges qui ont pu être virulents entre hétérodoxes, il y a quand même un horizon commun qui est de dire il faut que la dette publique soit en partie mise hors marché. On peut pas avoir les marchés financiers qui font la pluie et le beau temps sur les conditions d'endettement de l'État, qui le mettent en péril et qui l'obligent des fois à mener certaines politiques qui priorisent les créanciers sur sa population, comme ce qui a été fait en Grèce. Ça, c'est inadmissible. Ça, je pense que tous les hétérodoxes sont d'accord pour dire qu'il faut inventer un système institutionnel qui interdise ça. Et donc la question, c'est plutôt comment on va vers ce système. Est-ce que c'est l'abolition des règles budgétaires? Est-ce que c'est supprimer le statut d'indépendance de la BCE? Vous voyez, ça après, c'est un peu aux politiques de s'en emparer et de voir quelles sont les conditions de politique de possibilité au niveau européen. Est-ce que ça implique sortie de l'euro? Enfin, des choses comme ça. Donc, c'est pas seulement aux économistes d'en juger, c'est un peu quel rapport de force est possible en Europe. On a vu que, Tsipras, avec la Grèce, il était un peu esselé. Il a pas eu ce rapport de force pour transformer les règles. Et lui, à l'époque, avait envisagé, enfin du moins c'est ce que dit Varoufakis, de mettre en place, de repasser à une espèce de monnaie nationale pour continuer à payer les fonctionnaires et à faire tourner l'économie grecque. Bon, il a démissionné parce que ça n'a pas été... Donc, la question c'est ça. L'annulation, du coup, ça peut être vu comme un plan B ou un plan A, dans une stratégie plus globale de changer et essayer de changer ce qu'on peut changer compte tenu du rapport de force.
Donc en tout cas, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion sur la dette publique si on doit faire face aux deux grands défis du moment, qui sont les inégalités sociales et la transition écologique. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de la dette publique. Je vous invite une nouvelle fois à regarder donc cet ouvrage qui est sorti donc le 14 janvier, La dette publique par les économistes atterrés. Il y a trois autres auteurs à ce livre. Et nous nous retrouvons bientôt pour une autre émission de l'Écho à contre-courant.